Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Éléments de géologie, dans sa 17e édition couramment appelée le Pomerol, est un manuel universitaire collectif publié par Dunode. Ses auteurs, Maurice Renard, Yves Lagabriel, Erwan Martin, Marc de Raphélis Saint-Sauveur, Sylvie Leroy et Nicolas Coltis, proposent une synthèse très ample des sciences de la Terre et de l'univers. L'ouvrage est organisé en 37 modules et suit une trajectoire qui replace d'abord la Terre dans le cadre cosmique avant d'étudier sa structure, ses matériaux, ses dynamiques de surface et profonde, puis son histoire et celle du vivant jusqu'à l'émergence humaine. Il ne s'agit donc ni d'un simple atlas, ni d'une monographie spécialisée, mais d'un cours de référence destiné à construire une vision articulée de la géologie. Cette édition actualisée et en couleur est complétée par des photos-reportages téléchargeables. Son objectif principal est de fournir les notions fondamentales, le vocabulaire et les relations de causalité nécessaires pour comprendre les phénomènes géologiques à différentes échelles de temps et d'espace. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de l'univers à la Terre, une mise en contexte cosmique des phénomènes géologiques. Le choix de partir du Big Bang distingue nettement ce manuel d'une introduction limitée aux roches ou aux paysages. La géologie y est située dans l'histoire plus large de l'univers et du système solaire, ce qui donne un cadre aux questions de formation planétaire, de différenciation des enveloppes terrestres et d'origine des matériaux. Cette perspective évite de présenter la Terre comme un objet isolé dont la structure serait donnée d'avance. Comprendre une planète suppose en effet de relier sa position dans le système solaire, son énergie interne, sa gravité et l'histoire de son accrétion aux propriétés observables de ses couches et de sa surface. Le livre met ainsi en continuité des disciplines souvent enseignées séparément, notamment l'astronomie, la géophysique et la géologie historique. Pour un étudiant, cet élargissement a une fonction méthodologique importante. Il apprend à distinguer les phénomènes propres à la Terre de ceux qui relèvent de mécanismes planétaires plus généraux. Il fournit aussi les repères nécessaires pour comprendre pourquoi les archives géologiques sont incomplètes, transformées et néanmoins informatives. La formation de la Terre, sa composition et son évolution ne sont pas traitées comme une succession de faits à mémoriser, mais comme des conséquences de processus physiques et chimiques inscrits dans des temps très longs. Cette entrée rend plus intelligibles les chapitres ultérieurs consacrés à la dynamique interne, aux matériaux et à l'histoire de la planète. Deuxièmement, la tectonique des plaques comme principe d'organisation de la géodynamique. La tectonique des plaques constitue l'un des fils directeurs indispensables d'un panorama des sciences de la Terre. Elle permet de relier les mouvements relatifs des plaques lithosphériques à la répartition des séismes, du volcanisme, des reliefs, des océans et de nombreuses déformations de la croûte. Le manuel ne réduit pas ce domaine à une carte de frontières mobiles. Il l'inscrit dans l'étude de la structure terrestre, de la géophysique et de la géologie structurale, disciplines nécessaires pour comprendre les contraintes, les déformations et les échanges entre surface et profondeur. Cette articulation est décisive car une chaîne de montagnes, une fosse océanique ou un bassin sédimentaire ne se comprennent pas par leur seule apparence. Ils doivent être rapportés à des mouvements, à des régimes de déformation et à une histoire géodynamique. L'intérêt pédagogique d'un tel traitement est de donner au lecteur un cadre explicatif réutilisable. Au lieu d'apprendre séparément les volcans, les failles ou les séismes, ils peuvent examiner la position tectonique, les matériaux concernés et les mécanismes à l'œuvre. La géologie structurale apporte alors les outils pour lire les effets de la déformation dans les roches, tandis que la géophysique fournit des contraintes sur l'intérieur de la planète. Cette approche souligne également que les processus actuels sont une clé utile, mais non suffisante, pour interpréter les archives anciennes. Les vitesses, les configurations continentales et les contextes tectoniques changent au cours du temps géologique. Troisièmement, minéraux. Roches et géochimie, pour comprendre la matière terrestre, le livre accorde une place centrale à l'étude de la matière terrestre par la minéralogie, la pétrographie et la géochimie. Cette association est fondamentale, car chacune de ces disciplines répond à une question différente. La minéralogie identifie les constituants et leurs propriétés. La pétrographie étudie les roches et leurs assemblages, tandis que la géochimie aide à interpréter les compositions, les transformations et les conditions de formation. Ensemble, elles permettent de passer de l'observation d'un échantillon à une reconstitution prudente de processus tels que la cristallisation, l'altération, le métamorphisme ou le recyclage des matériaux. Le manuel met ainsi en avant une idée structurante de la géologie: les roches ne sont pas seulement des objets à classer. Elles conservent des indices sur les environnements et les mécanismes qui les ont produits. La texture, les minéraux présents et les relations entre les constituants peuvent renseigner sur la température, la pression, la présence de fluides ou la vitesse de refroidissement, à condition d'être interprétés avec méthode. Cette partie est particulièrement utile pour consolider le vocabulaire et les raisonnements de base nécessaires aux travaux pratiques. Elle évite aussi une opposition artificielle entre description et explication. Une bonne observation pétrographique exige des critères précis, mais elle prend son sens lorsqu'elle est reliée au processus physique et chimique. Dans un ouvrage aussi vaste, ce socle matériel assure la cohérence entre les phénomènes profonds, les produits volcaniques, les roches déformées et les sédiments. Quatrièmement, les processus de surface, des reliefs aux archives sédimentaires. La géomorphologie et la sédimentologie élargissent l'analyse aux processus qui façonnent continuellement la surface terrestre. Érosion, transport des peaux, circulation de l'eau et action de la gravité contribuent à produire des reliefs et des accumulations sédimentaires. Le manuel traite ces domaines non comme une simple géographie des paysages, mais comme un moyen de comprendre comment des mécanismes actuels construisent des archives géologiques. Les sédiments enregistrent en effet des conditions de dépôt, des variations de milieu et parfois des événements plus brefs. Mais leur lecture demande de considérer les transformations qui suivent l'enfouissement. Cette prudence est essentielle, une couche observable N et pas une photographie intacte du passé. Elle résulte à la fois de la sédimentation, de la compaction, de la cimentation, de la déformation éventuelle et de l'érosion ultérieure. L'approche transversale du Pomerol permet de relier les bassins sédimentaires à leur contexte tectonique, les formes du relief au climat et à la lithologie, et les dépôts aux dynamiques des milieux continentaux ou marins. Elle aide donc à raisonner en chaîne de processus plutôt qu'en catégorie fixe. Pour les étudiants, cette dimension est particulièrement concrète, car elle donne des outils pour interpréter un paysage, un affleurement ou une succession de couches. Elle montre aussi pourquoi la connaissance de la surface terrestre intéresse des enjeux appliqués, notamment la gestion des ressources, des sols et de certains aléas, sans transformer le manuel en traité spécialisé de ses applications. En dernier lieu, temps géologique, évolution du vivant et place de l'humanité dans l'histoire terrestre. Le parcours s'achève sur l'histoire de la Terre, l'évolution du vivant et l'origine de l'homme, ce qui donne au manuel une portée historique aussi bien que descriptive. Cette organisation rappelle que les roches, les fossiles, les structures et les formes du relief sont des archives dont la signification dépend du temps géologique. Les immenses durées considérées imposent des méthodes de raisonnement spécifiques, établir des successions, corréler des événements, distinguer chronologie relative et datation, puis confronter les indices issus de plusieurs disciplines. La place accordée aux vivants ne constitue donc pas un ajout périphérique. Les organismes interviennent dans les environnements. La production de certains sédiments et la constitution d'archives paléontologiques qui aident à reconstituer les changements anciens. L'émergence humaine est replacée dans cette longue histoire plutôt que présentée comme une rupture indépendante de la planète. Cette perspective a une valeur intellectuelle forte pour les lecteurs en sciences de la vie et de la Terre, car elle relie évolution, biologie, changements environnementaux et dynamiques terrestres sans les confondre. Elle invite aussi à mesurer la différence entre un événement rapide à l'échelle humaine et les transformations lentes ou répétées qui modèlent la planète. Le manuel fournit ainsi une culture du temps profond, indispensable pour interpréter les grandes transitions de l'histoire terrestre. Il montre que toute reconstitution reste fondée sur des traces matérielles avec leurs possibilités d'interprétation mais aussi leurs lacunes et leurs incertitudes. En conclusion, élément de géologie convient d'abord aux étudiants de licence, aux élèves de classe préparatoire et aux candidats au concours de sciences de la vie et de la Terre qui recherchent un socle large et structuré. Il peut également servir aux enseignants, aux étudiants plus avancés désirant revoir les bases, ainsi qu'aux amateurs déjà disposés à lire un manuel universitaire substantiel. Sa principale utilité pratique est de réunir, dans un même volume, les notions qui permettent de passer d'une observation de terrain ou d'un échantillon à un raisonnement géologique cohérent. Le lecteur y trouve un cadre pour articuler matériaux, structure, processus de surface, dynamique interne et histoire terrestre, plutôt qu'une juxtaposition de fiches disciplinaires. L'ampleur de ces 37 modules en fait cependant un ouvrage à consulter progressivement en complément d'exercices, de travaux pratiques et d'observations de terrain lorsque cela est possible. Ce qui le différencie de nombreux ouvrages d'initiation plus courts est précisément l'étendue de son ambition. Il embrasse les sciences de la Terre et de l'univers depuis le contexte cosmique jusqu'à l'histoire humaine. Par rapport à un atlas, il privilégie les concepts et les mécanismes. Par rapport à un traité spécialisé, il maintient les liens entre les sous-disciplines. L'actualisation de la 17e édition, l'usage de la couleur et les ressources photographiques associées renforcent son rôle de référence pédagogique. Sa densité demande un effort réel, mais elle explique sa valeur durable comme manuel de formation et de consultation. Si vous souhaitez soutenir Maurice Renard, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.